Vous écoutez RTL.
RTL.
Facebook, comment ça marche? Facebook, c'est un site internet de socialisation, c'est-à-dire un endroit où les gens qui n'ont rien à glander peuvent rencontrer d'autres gens qui s'emmerdent. Le but est de collectionner les amis. Pour cela, vous envoyez des messages aux autres milliers de crétins en leur demandant s'ils veulent devenir vos potes. C'est aussi la possibilité de s'envoyer des messages du genre « Bonjour, ça va ?»
La curiosité est un vilain défaut.
La voiture électrique, comment ça marche? C'est pas compliqué, ça marche pas.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invité est une star des plateaux télé depuis des décennies. Salut vous-même d'être l'un des personnages préférés de Laurent Gérard. Bonsoir Michel Chevalet.
Bonsoir.
Elle vous plaît votre imitation?
Ah, il faut que je vous la fasse tout de même.
Hein. Ah, vous imitez vous-même?
Oui, non. C'est Laurent qui m'imite. Non, mais moi je vais vous faire comment ça marche. Parce que si vous téléphonez à Laurent Gérard, hein, 06, non, je dis pas son numéro, oui. Il y a un répondeur, oui. et Laurent Gérard, c'est un répondeur, comment ça marche.
C'est génial.
Il date de quand, tiens, votre comment ça marche? Est-ce que vous pouvez le dater?
Non, alors, bah, vous en savez quelque chose, TF1. Oui. Donc je l'utilisais, enfin, couramment, sans m'en rendre compte. Et puis un jour, j'ai participé à une remise d'Oscar. On était à Mamet, on était parti avec une caravelle pourrie, on est tombé en panne. Et l'animateur de la journée, c'est Jacques Martin. Et en numéro 2, c'était Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Évidemment, l'avion étant tombé en panne, on est arrivé avec le couscous froid, les chats mauves, je ne vous passe pas dans l'arrêt. La remise des Oscars, bref, il était 4h du matin, Laurent Gérard monte sur scène, fatigué, et il n'a de cesse, Laurent, que de démolir Téléstar, Télépoche, Télémachin, voilà. Donc, le beat complet. Il vient s'asseoir à la table où j'étais, avec Virginie, puis il me dit, c'est foutu, hein, ça marche pas, c'est foutu. Alors je lui remonte le moral, on l'a sympathisé, puis à la fin du repas, il me dit, mais il y a un truc, vous, que c'est marrant, vous dites tout le temps comment ça marche. Ah bon? Est-ce que vous me permettez de l'utiliser? Ah bon? Et puis il a été mon attaché de presse, il était chez Drucker, Europe, et puis maintenant chez vous, RTL.
Vous avez été prof de maths?
Oui.
Oui, Michel Chevalet. Vous l'utilisez déjà, cette formule, sans vous en rendre compte?
En maths, c'est plus difficile. Non, j'utilisais les Shadok pour expliquer les mathématiques. J'ai eu comme élève Laurent Voulzy, en sixième.
Il a pas continué dans les maths.
Non, la preuve, ça mène pas à tout. Hein.
Il a eu raison de prendre une autre voie. Alors, on a eu envie de vous inviter, Michel, au Mondial de l'Auto, parce que vous publiez vos mémoires spatiales aux éditions Paulsen. Alors, on peut se dire, maintenant, elle est pas logique, cette phrase, mémoire spatiale, Mondial de l'Auto. Sauf que, dans ce livre, il y a une anecdote qui est savoureuse, et qui concerne un grand manufacturier français, c'est Michelin. Ça commence en 1997. Vous êtes en reportage pour TF1 à Cap Canaveral, ouais. Et là, qu'est-ce que vous découvrez?
Alors on découvre qu'en circulant sous la navette qui était dans un hangar, qui s'était posée, en circulant sous le ventre de l'engin, on regarde les tuiles, et puis je regarde le train d'atterrissage, et je vois les pneus, et je regarde les pneus. Ah, je me dis, mais ils sont Michelin, hein? Et personne ne le savait. Il n'y avait pas eu de communication, surtout pas les Américains. Vous vous rendez compte, une navette américaine qui se pose sur des pneus français, c'était pas acceptable. Et donc je retourne à Paris, j'appelle le DIRCOM de Michelin, et je lui dis non, tu sais que la navette se pose sur les Michelin. Il me dit, ah non, ça ne fait pas.
Ils ne le savaient pas eux-mêmes, mais comment c'est possible?
Ils allaient l'histoire, cachette,
mais
non,
mais bien sûr, l'histoire est la suivante. Donc il y a un déjeuner qui est organisé, j'ai eu le plaisir de déjeuner à rue Breteuil avec Édouard Michelin, et puis je leur expose, je leur dis, ben voilà. Alors il y a un type qui dit, mais oui, monsieur le Président, vous savez, il y a eu un appel d'offres international pour des pneumatiques de catégorie aviation. Ça trompait tout le monde. Ouais. Or, Michelin, déjà, équipait des avions américains et des avions de chasse américains. Il avait été sélectionné parce que par la qualité de ses pneus X. Et donc, il n'était pas anormal que Michelin réponde à un appel d'offres pour les pneumatiques où les contraintes étaient à peu près celles d'un 747. Donc, ça n'a pas éveillé leurs soupçons.
D'accord.
Et en fait, ces pneus étaient pour la navette qui était à l'époque, on ne va pas le dire, équipée de Goodyear. Et les Goodyear souvent éclataient à l'atterrissage. Et ce qui foutait la trouille aux astronautes. Voilà.
Et donc vous
Michelin a été sélectionné, mais le problème, et je termine, Michelin pouvait pas, on pouvait pas mettre sur les flancs Michelin. Donc les Américains, le flanc interne, c'était Michelin, comme ils l'appellent, mais le flanc extérieur, c'était Goodrich. Et oui, Goodrich est un Américain, mais on a obligé Michelin à racheter Goodrich, l'honneur était sauf.
C'est drôle. Quelle histoire.
Et alors l'année suivante, du coup, vous proposez à Michelin une idée complètement dingue dans le cadre du centenaire de la marque, voilà. Et ça devait se passer justement ici au salon de l'auto, au Mondial de l'auto.
Mondial,
Qu'est-ce que vous leur avez proposé?
Mais écoutez, le Édouard Michelin me dit, écoutez, moi j'aimerais faire un coup là pour les 100 ans avec l'espace, puisqu'on est dans l'espace avec la navette. J'ai dit, mais attendez, moi je vais vous organiser le coup du siècle. il y a la station spatiale, mais Mir, la station russe. On va monter un bonhomme Michelin, un bibendum dégonflé dans la station Mir. Puis, on lui fera une sortie dans l'espace avec les astronautes, relié par un filin pour pas le lâcher, évidemment. Et ça sera en direct, j'ai regardé les heures, ça peut coller, en direct sur le stand Michelin au salon de l'auto.
Une pub spatiale.
Donc, à la plus belle des pubs.
Ça a marché ou
et
pas,
le,
là
le plus beaucoup de ma carrière. Eh ben, raté.
Pourquoi?
Bon, on avait tout prévu, on avait fait les essais, etc. J'ai vu l'équipage. Sauf que, 8 jours avant, Michelin annonce qu'il licencie 2300 personnes à Clermont-Ferrand. Donc, c'était pas possible, disons, de dire Michelin s'envoie en l'air. Vous voyez la une du Canard enchaîné, Michelin s'envoie en l'air. Et puis, de l'autre côté, il licencie 2300 personnes.
L'honneur est sauf, Michel Chevalier.
Donc, ils ont renoncé. Vous en avez fait beaucoup des mondiales des salons de l'auto dans votre carrière?
Ah, ben, oui, parce que je suivais pas tant, si vous voulez. C'était Hervalet chez nous, à TF1,
oui,
qui suivait la bagnole.
Michel.
Je m'intéressais, c'est la technique. Et puis, je suis très bricoleur, je suis ingénieur de formation. Moi, j'ai les mains dans le cambouis le week-end. Je restaure des vieilles voitures américaines.
Je
connais bien la technique.
Créer des fusées, peut-être pas, quoique.
Ah ben, j'ai participé au lancement de petites fusées.
Et puis, vous avez failli monter dans l'espace. Mais ça, on le racontera tout à l'heure. Michel Chevalier, ce talent de conteur scientifique, grand manipulateur de maquettes aussi. On va vous raconter ça dans un instant avec une autre marque automobile, Jeep, dans l'espace.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité en direct du mondial de l'auto. Nous sommes porte de Versailles à Paris. Nous sommes toujours dans le pavillon 2-2. Vous pouvez venir, pas ce soir parce que c'est pas encore ouvert, mais pour vous, c'est dès samedi.
Et
il y a
samedi, oui.
Toute la grille d'RTL, tous les copains, l'info, le divertissement, les programmes qui sont là pour vous raconter des histoires de voitures, mais pas que. En attendant, nous sommes avec Michel Chevalier qui publie « Comment ça marche, les mémoires spatiales d'un journaliste » et c'est publié aux éditions Paulsen. Dans ce livre, pas mal d'anecdotes spatiales qui sont liées à l'automobile. C'est pour ça qu'on en parle évidemment aussi ce soir. La première maquette que vous avez manipulée à la télé, vous en souvenez, Michel Chevalier?
Ouais, c'est une petite voiture. Ouais, c'est une histoire. Ouais. Il y a eu une voiture dans l'espace. Enfin, il y en a eu trois. Apollo 15, 16 et 17. Une bagnole, une Jeep sur la Lune.
Comment vous retrouvez à la télévision, vous, l'ancien prof de maths?
Si vous voulez... On me dit souvent, on me dit comment se fait-il qu'un prof de maths ait échoué à la télévision. Il y a une logique dans tout cela. La logique, c'est que j'ai toujours eu la passion de comprendre. Je voulais comprendre. Je suis une éponge. C'est ce que me disait Thomas Hugues tout à l'heure. On disait, on est tous les deux des éponges. Mais dans le bon sens du terme, hein, je veux pas. Mais bien sûr, nous apprenons. C'est le type même de votre émission. Moi, j'avoue que je l'écoute dans la voiture, le soir, en rentrant. Je
le curieux
tard.
Éponge.
Mais bien sûr. La curiosité n'est pas un vilain défaut.
Mais non, c'est une antiphrase, notre titre donc, d'émission.
Mais oui, et donc, comment ça s'est passé? Moi, j'ai travaillé, si vous voulez, mes interlocuteurs, au lieu d'être 30 élèves, c'était 3 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est ça.
Oui,
c'est toujours la même logique,
hein,
de compréhension. Ouais. Une fois que j'ai compris quelque chose, je veux le faire partager.
Alors, Michel, il faut revenir à cette histoire de Jeep lunaire, parce que la maquette a une histoire. Qui a construit cette maquette et en quoi elle était faite?
Il y avait un maquettiste, si vous voulez, à l'époque, pour faire comprendre l'espace, les rendez-vous dans l'espace. Les gens ne pouvaient pas se représenter quand vous voyez une fusée à l'extérieur, vous ne comprenez pas comment ça marche. Et donc j'ai eu l'idée, j'ai dit, ben voilà, pour la représentation, parce qu'on était à la télé, il faut montrer les objets, il faut manipuler, il faut que ça bouge. Qu'on lui disait, mais il faut que ça bouge ton truc. Eh bien, il y avait un maquettiste de la SFP, Louis Dumont, qui était passionné par la guerre des étoiles, si vous voulez. Il construisait chez lui des modèles d'engins futuristes. Et puis il est venu me voir. Et il est venu avec une maquette de la Jeep lunaire à Cognac-Jay, et puis il m'a dit, écoutez, ben voilà, moi j'ai pris avec des documents, des photos, j'ai fait ça, est-ce que ça vous plaît? Génial, on était à l'époque avec Jean-Pierre Chapelle, on a dit, mais bingo! Mais bien sûr!
Ce qui est drôle, c'est les matériaux qu'il a utilisés, vous vous souvenez des matériaux?
Oui, on peut le dire.
Ah bah oui.
Ils vont être déçus, hein, les gens. les maquettes étaient tellement belles, mais non.
Papier crépon et papier alu, non?
Mais c'est les vrais, mais c'est ça les vrais. Eh ben, c'était les tuyaux de descente de Water, de 80. C'était le corps de la fusée. Et les moteurs, c'était des dés à coudre.
Qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes ces maquettes? Parce qu'il en a fait d'autres, Louis Dumont, des maquettes pour vous. Vous les avez gardées?
Alors malheureusement, oui, j'en ai gardé encore. Vous venez dans mon bureau à Boulogne, j'en ai gardé. Je pouvais pas toutes les stocker. Malheureusement, elles ont été vampirisées, foutues à la poubelle. Faut être honnête, c'est un massacre. Et la plus belle, peut-être, ça a été, il m'avait fait la navette spatiale.
La navette Columbia, c'est ça, la première navette américaine. Ouais.
Mais alors, il avait fait avec les plombs qu'on lui donnait, il a reconstitué. Seulement, la maquette, elle pesait 150 kilos, elle faisait 2 mètres de long, 1 mètre de large. Et donc, la petite histoire, c'est que quand on en avait besoin pour le premier lancement en 80 de la navette, donc je vais l'avoir sur le plateau. Et donc, avec Jean-Pierre Chapelle, on appelle Louis Dumont, on lui dit, écoute, on t'envoie un transporteur qui va t'amener la maquette. Il habitait à Créteil dans un HLM. Il l'avait construite dans un salle à manger.
C'est génial.
Mais il pouvait plus sortir. Il pouvait plus sortir de la salle à manger. Donc, l'escalier, l'ascenseur, impossible. Et Jean-Pierre Chapelle, qui est un ancien militaire parachutiste, s'en est souvenu. Il a appelé ses copains militaire, elle a dit les pompiers, allez hop. Et donc au troisième étage, la grande échelle, les corps, et on a descendu la navette.
Et on l'a livrée à Cognac Jet, donc à l'époque. Voilà. Donc vous voilà le 12 avril 81 pour commenter le lancement de Columbia. Alors c'est drôle parce qu'il vous manque un spécialiste, un ancien astronaute américain, c'est ça, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Voilà, c'était Cavada qui était le patron de l'information à l'époque. Et Cavada me dit, moi je veux absolument un astronaute américain. Alors le lancement de la première navette, tout était réservé d'abord par les grands networks américains. Nous, alors TF1, on était les petits à côté. Et puis, ils sont tous à Cap Kennedy. Il en restait un, c'est mon copain Jacques Tizio qui l'a trouvé, qui est Fred Hayes. Fred Hayes, c'est l'homme d'Apollo 13. C'est l'un des trois d'Apollo 13. Vous savez, où il y a eu l'accident.
Et le film avec Tom Hanks.
Avec le film, et qui est revenu sur Terre. Mm. Et Fred a été utilisé comme pilote, premier pilote de la navette, mais pour apprendre à la poser. Le problème, tout est automatique, la rentrée dans l'espace. Mais après, c'est en finale, c'est un gros planeur sans moteur, 70 tonnes sans moteur, il ne faut pas louper la piste, il ne faut pas de remise de gaz.
Et donc Fred, vous accompagner.
On le larguait, ouais, du dos d'un 747, et il se posait. Donc Fred, et je l'avais invité, bon, il est venu, Concorde, etc., il fallait faire les choses bien. Hein. Ah bah oui, à l'époque, TF1, hein, c'était bien. Hein. Hop, on l'invite, Concorde, il voulait un Américain, Concorde, ok. On l'invite. Et puis, le premier soir, c'est Bernard Lyon, le réalisateur. Le premier soir, il est présent. Et le deuxième soir, au moment de l'atterrissage, je vais pour prendre l'antenne. Pas de Fred. On appelle à l'hôtel. Mais il est parti. On ne sait pas où il est. Et Bernard Lyon hurlait. Oui, alors, où est ton Amerloc? J'en sais rien. Je démarre tout seul. Hein, c'est notre métier. On meuble. Je dis, attends, il me manque. Et puis, d'un seul coup, la régie, à l'époque, c'est le téléphone, la régie. Allô, Chevalet? Dis-moi, ton Amerloc, on l'a retrouvé. Ah bon? Où est-il? Voici Saint-Léger. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il a voulu prendre le RER. Oui, RER, comme il disait.
Il était meilleur dans l'espace
il
que dans
le RER.
Il a pris
le RER et il n'a pas compris. Il s'est retrouvé à Boissy Saint-Léger au terminus A. Et c'est un gars de la RATP qui l'avait vu et qui l'a reconnu à l'antenne, qui m'a dit, on vous l'a retrouvé, votre Américain, on vous le renvoie.
Et on vous le renvoie, c'est très drôle. Et alors, pour expliquer l'importance des tuiles, Michel Chevalet, l'étude de la navette pour rentrer dans l'espace, pour protéger la navette, vous aviez fait une expérience sur le plateau du 20h. C'était quoi?
Si vous voulez, vous savez ce que c'est, le journal télévisé, surtout lui il présentait le journal et sans arrêt, il faisait signe, c'est trop long, sans arrêt. Ben oui.
Ça alors, arrivait, oui.
Alors, il fallait, alors donc, en une minute et demie, il fallait faire comprendre le pouvoir isolant de ces tuiles qui sont de la silice pure. Donc, j'ai pris un petit chalumeau, le petit camping-gaz sur le plateau, et je l'ai chauffé au rouge, et après, je l'ai pris à la main, et en disant, vous voyez, la chaleur n'a pas migré, les 1500 degrés n'ont pas atteint mes doigts. Et alors là, ça a stupéfait Fred Hayes, l'astronaute, parce que même les networks américains n'avaient pas pensé à cette manip.
On est toujours au Mondial de l'Auto et on se régale. On est dans le salon 2-2, Porte de Versailles à Paris. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'espace et l'automobile. Par exemple, avec les projets d'Elon Musk, l'homme qui veut coloniser la planète Mars. A tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Lorsqu'il apparaît dans les médias, c'est souvent pour vanter les mérites de ses créations. Au volant de sa voiture électrique, Elon Musk aime faire le show.
Regarde, la voiture se dirige toute seule, freine toute seule. Là, je ne touche à rien.
La curiosité est un vilain défaut.
Je veux démontrer que la voiture électrique est la plus prometteuse voiture du monde.
Jusqu'à 22h,
cet ingénieur présente un nouveau modèle.
Il y a un bouton de défense en cas d'attaque. Si, c'est vrai.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit sur RTL en direct du Mondial de l'Auto avec Michel Chevalet, grand journaliste scientifique qui nous raconte ses mémoires spatiales. Et c'est un bonheur, Michel, de vous retrouver après quelques années communes sur TF1. La curiosité, vous le disiez tout à l'heure, c'est une qualité, c'est l'une de vos plus grandes qualités. C'est aussi un atout pour Elon Musk, ce milliardaire américain d'origine sud-africaine. On l'a entendu, c'est le propriétaire de la marque de voitures électriques de luxe, Tesla. Et c'est aussi quelqu'un qui rêve d'espace. Il a annoncé mardi soir... il a précisé même, on va dire, son ambition martienne. Il veut coloniser la planète d'ici 2025. Ça vous semble possible, ça?
Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour bien préciser Elon Musk, et puis vous allez comprendre la suite.
Allez-y.
On revient 10 ans en arrière, au même congrès d'astronautique spatiale à Washington. il prend la parole, il avait demandé la parole. Toute personne ne connaissait Elon Musk dans le milieu spatial, évidemment. Mmh. Il est arrivé à la tribune, il a regardé les gars, et il a dit, dans 5 ans, vous êtes tous morts. Stupéfaction. Attends, que ce troublion, que ce con qui va nous apprendre à nous à lancer des fusées, à faire des satellites, il y connaît rien. Lui, il faisait Paypal, d'accord, il a gagné du pognon. Mais qu'il vienne pas nous emmerder.
Donc il n'est pas pris au sérieux du tout à l'époque.
Pas du tout. Mais le gars, comme il a beaucoup d'argent, le gars était intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé complètement les structures, il a cassé le marché, il a pris les meilleurs spécialistes de la NASA qui étaient disponibles sur le marché puisqu'il n'y a plus de navettes. Et oui, il y a un marché disponible, il y avait des gars très compétents, du pognon, centre de recherche, et il a fabriqué une fusée très simple, c'était le SpaceX.
Avec SpaceX, une idée de fusée qui va dans l'espace et qui revient.
Et qui revient pour faire des économies. Vous voyez, il casse complètement les procédures. Mmh. Et il sait, avec une fusée low cost, je vais diviser par 2, par 3, le prix du kilo en orbite, alors que les grandes sociétés américaines, Boeing, Martin Marietta et autres, entre nous, se goinfraient sur le crédit, de notamment de la défense américaine.
Donc il est pris au sérieux aujourd'hui, Elon Musk, pour sa conquête de l'espace et de Mars.
Oui, parce qu'il a obtenu tout de même de desservir la station spatiale avec des cargos, avec 1,2 milliard, pof, un chèque, 1,2 milliard, et vous me ferez 12 voyages vers la... Oui, c'est très... Alors donc
ce projet martien.
Voilà, c'est pour ça son projet martien qui paraît complètement absurde, farfelu, démesuré. Il en va en rester quelque chose. C'est le coup de pied dans la fourmilière. Et lui, il dit, écoutez, d'aller vers Mars, techniquement, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, on sait le faire. Donc, on va d'abord envoyer une capsule avec des hommes qui vont tourner autour de Mars et puis ils reviendront sur Terre. Ils vont pas se poser. Puis après, on va envoyer un engin qui va se poser. Il faut apprendre à se poser. Et puis, la troisième étape, on va poser ça avec des gens, mais c'est pas garanti qu'on puisse faire le retour.
Mmh. Michel Chevalet, vous publiez Comment ça marche aux éditions Paulsen. Et dans ce livre, vous dites que vous avez grandi avec l'espace, c'est joli. C'est une rencontre avec un journaliste d'RTL qui va changer votre vie. Ouais. C'était qui?
C'est vrai. C'est vrai, j'étais professeur et donc j'avais envie de... Disons, j'écrivais déjà dans Science et Avenir. Hein, quand on est prof, on a un petit peu de temps. J'écrivais dans Science et Avenir, qui m'a permis de côtoyer des très grands. François de Closet, évidemment, Albert Ducrot, Bébé à la Science. Et puis à RTL, il y avait Lucien Barnier.
Lucien Barnier.
C'était une voix, c'est un personnage. On l'appelait Lulu la science, nous. Hein, voilà. Et je lui ai écrit à Lulu parce que il avait édité une revue. Et il avait une revue où j'ai trouvé qu'il y avait des erreurs. Je me suis permis de lui écrire. Mais il était grand. Il m'a appelé. Il m'a écrit. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, ma pauvre. J'avais même pas le téléphone. Mais j'avais même pas le téléphone quand j'ai débuté journaliste. Et donc, Lulu m'a demandé de venir. Il est notre ami de Lorette. Il y avait une agence de presse. Mmh. Il m'a expliqué. Et je lui ai dit, moi, je suis enseignant, je suis prof. Et du coup, il m'a proposé de collaborer avec lui.
La voix de Lucien Barnier, tiens, on la réécoute. Tout de suite, il commente l'exploit d'un cosmonaute russe.
C'est l'un des 3 ou 4 grands moments de l'histoire humaine. Cet homme, dont l'image apparaît tremblotante, floue, va littéralement pénétrer dans cet espace interdit. Et c'est une vision tout à fait stupéfiante. Là, le cosmonaute est sorti, il est dans l'espace. On a l'impression qu'il peine. En réalité, le cosmonaute fait attention à ne pas effectuer de gestes brusques parce qu'il se familiarise avec des réactions qu'il n'a pas pu expérimenter sur la Terre.
Michel Chevalet, c'est émouvant d'entendre de nouveau la voix de Lucien Barnier.
C'était une voix.
Ouais. Il raconte la première sortie d'un homme dans l'espace, en fait. Hein, c'est un Russe qui l'avait fait, soviétique. Oui, c'était la grande bagarre à l'époque.
Léonov.
Ouais. On est dans les années 60, c'est ça?
Vous savez pourquoi? Ouais. On le sait maintenant, il a failli y rester. Surtout ça, bien sûr. Il ne pouvait plus revenir. C'est-à-dire que les Russes n'avaient pas prévu que le scaphandre se gonflait. Ben oui, il y a le vide de l'autre côté. Donc c'était bibondome. C'était bibondome, donc il n'arrivait pas à se stabiliser. Et donc, il a voulu re-rentrer dans son sas, et il pouvait pas rentrer, et il a fallu qu'il perce. C'est cool, elle laissait sa peau, hein.
Donc
il était obligé de dégonfler son scaphandre, à risquer de mourir, pour pouvoir rentrer dans le sas.
Les Américains ont appris des Russes un peu comme ça là-dessus?
Mais les Américains ont fait la même expérience après.
Avec des combinaisons plus.
Avec voilà. Ils avaient... Mais plus non, parce que c'était une cabine Gemini, et la cabine Gemini, il n'y avait pas de sas. Ouais. C'est-à-dire que l'autre gars aussi avait un scaphandre. Donc il n'y avait pas de problème. Voilà.
Mais Michel Chevalet, vous racontez dans votre livre Comment ça marche, qui est publié chez Paulsen, qu'à cette époque-là, c'était assez facile de passionner les foules pour l'espace, parce qu'il y avait l'émission Apollo.
Bien sûr.
Et puis il y a un moment où c'est retombé.
Ben après Apollo.
Pourquoi? Attends,
mais parce que tout de même Apollo, on a fait c'était vraiment le plus grand des rêves de tous les hommes d'aller se poser sur la Lune. Mmh. Et à son faute, il faut connaître. Et puis après ils ont amélioré les choses, ils ont mis des images. Hein, pour nous, on y est. De vous à moi, Apollo 11, quand on regarde les images d'un biberon d'homme fantomatique très sectant,
on voyait pas grand chose
entre nous.
On est loin de l'HD, oui.
Ça manquait de HD et de couleur. La couleur est arrivée avec Apollo
15. Ça fait déjà rêver.
Donc c'est l'événement. Et derrière cela, après, on m'a dit, bah, les gants, ils ont les capsules, ils tournent autour de la Terre, ils font des calipettes dedans. Eh ben, ça manquait de peps. Et surtout, le congrès américain qui a dit, ça intéresse plus le public, on coupe les crédits. Et ça a été très dur pour les Américains.
Comment vous faisiez pour faire en sorte qu'on se passionne pour l'espace, que l'espace appartenait quand même plus aux technocrates qu'aux aventuriers? Donc vous aviez des amis dans les agences spatiales? Vous glaniez des infos pour imaginer comment raconter, mettre de la chair dans tout ça?
Non, je faisais avec des maquettes d'abord. Avec les maquettes, ça passait. Mon histoire passait parce qu'il y avait une maquette, il y avait un jeu. À la télé, c'était pas la radio, c'était la télé.
Oui, au Playmobil, en fait.
Ah oui, ça me l'avait jamais fait, ce coup-là.
Ben voilà, écoutez.
Faut s'attendre à tout.
Le Playmobil de l'espace, tiens.
Allez, c'est un petit cadeau.
Voilà.
Donc il y avait les maquettes. Voilà. Et puis il y avait
après trouver les anecdotes avec mes copains, après astronautes.
C'est ça. Alors ça, on va le raconter tout à l'heure, Michel. Faut pas tout dire tout de suite. Vous avez créé des liens particuliers avec notamment les astronautes français. Alors moi, je me suis toujours perdu. On a dit spationaute à une époque, mais pourquoi? C'était la guéguerre, c'était quoi ça?
Parce qu'on est des Français et on fait jamais les choses comme les autres, alors que les Américains, astronautiques, astronautes, voilà, c'est
attendez, il y a cosmonautes, astronautes et spationautes, vous nous remettez ça dans l'ordre ou pas?
Mais oui, mais attendez, c'est facile, nous les Français, il fallait qu'on fasse pas comme les choses, donc alors on a dit, ben voilà, c'est les spationautes.
On n'était pas cosmonautes comme les Russes.
Les Russes, c'est cosmonautes, c'est normal, Américains, astronautes. Mais les Français, ils font pas comme tout le monde, passionnant.
Et quand les Européens lancent le défi Ariane, c'est quoi la première réaction dans les rédactions? Est-ce que c'est de la passion, de l'intérêt tout de suite ou pas?
Donc vous étiez à TF1, vous
avez mais moi je pose la question.
Mais attendez, je ramais pour leur dire, les passionnés pour une guide pétoire, parce qu'à l'époque, allez, ils vont m'en vouloir. Mais c'est, enfin, Ariane avait 25 ans de retard. Mais parce qu'on ne prenait aucun risque, parce qu'on ne savait pas. Et on a bien joué, évidemment, parce qu'après on l'a amélioré, avec quel succès. Donc ça ne passionnait pas les foules. Et donc moi, il fallait que j'arrive à passionner mes rédacteurs en chef et leur dire, attendez, il y a une fusée européenne, ça va être la France dans l'espace, les gars, il faut y aller. Eh ben j'ai ramé, hein, croyez-moi.
Et ça n'a pas toujours été simple avec Ariane Espace. Vous avez même été interdit de séjour à Kourou, en Guyane. On va vous raconter pourquoi dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Comment ça marche? Par Michel Chevalet.
Vous écoutez RTL.
Comment ça marche? Par Michel Chevalet.
La télématique, vous savez, eh bien, c'est le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur.
Comment ça marche? Par Michel Chevalet.
Mais le RER, c'est des travaux gigantesques, les plus grands du XXe siècle.
La curiosité est un vilain défaut.
Comment ça marche? Par Michel Chevalet.
L'homme, Jean-Claude Bourret, en quelque sorte, est prisonnier de son berceau originel. Je crois qu'il n'en sortira jamais.
Alors là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais c'est un autre débat, une autre question.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
De retour en direct du Mondial de l'Auto avec Michel Chevalet qui nous raconte ses mémoires spatiales dans Comment ça marche, mémoires spatiales d'un journaliste. C'est aux éditions Paul Sen. Jean-Claude Bourret, vous vous entendiez bien avec lui, Michel?
Oh oui, oh bah ça.
Il vous contredisait souvent.
Alors, il y a un domaine où on n'était pas d'accord, c'est que lui, il croyait aux soucoupes volantes, mais moi, pas du tout.
C'est vrai, c'était une discussion. Il a écrit beaucoup de livres là-dessus.
Ah oui.
Et vous vous écharpiez là-dessus?
C'était son fonds de commerce, plutôt.
Ah oui. Il y a un instant, on racontait un voyage de presse à Kourou, en Guyane, sur le chantier du futur pas de tir de la fusée Ariane. On est en 1979. Et ça se passe pas très, très bien.
Pourquoi? Alors, ça pouvait très bien se passer. Mais faut avouer qu'à l'époque, c'était pas Ariane Espace. Ariane Espace n'a pas été créé.
Ah oui, c'est vrai, ça s'appelait pas encore.
C'est le CNES. Alors, le CNES, bon, il y a des gens remarquables, très compétents, et heureusement qu'il y a eu le CNES, sinon on serait pas dans l'espace. Il n'y aurait pas eu Ariane. Mais le problème, c'est que les gars avaient la trouille. Et puis, ils aimaient pas les journalistes qui venaient regarder. Parce que c'est des gens qui étaient le mal du secret, ils avaient peur. Faut avouer que les médias, ils ont drôlement étrié, hein. Ariane n'était pas très aimé par le Canard Enchaîné et par les médias. Moi, quelques journalistes qui étaient passionnés et qui les soutenions. Et donc, je fais un reportage, et puis, je savais qu'il y avait les vestiges de l'ancienne fusée européenne Europa qui avait pété et que l'Europe n'avait pas été foutue de mettre au point et qui avait englouti des sommes faramineuses. Et donc pour faire comprendre aux téléspectateurs en disant « Regardez, enfin il y a une fusée avec un maître d'œuvre, avec des patrons et on ne veut pas que ça recommence comme cette fusée, il y avait l'étage, le boostrec anglais qui était chez un ferrailleur. Vous voyez, l'Europe spatiale, ils avaient démonté le pas de tir et c'était chez un ferrailleur.
Vous êtes allé fouiller, vous, Michel Chevalet,
évidemment. Caméraman, avec le caméraman, on était pour faire le plateau devant le c'est beau.
L'épave de la fusée européenne.
Et de dire, Voilà ce qui ne doit pas arriver. Mais les gens du CNES, quand ils ont vu le sujet, ils ont retenu, ils n'ont pas écouté, ils ont dit, voilà ce qui va arriver. Et alors là, bah, j'étais banni, voilà, j'étais interdit de séjour.
Ah oui,
carrément. Ah bon, on m'a pas fait de cadeau.
Pendant quelques mois, ça n'a pas duré trop longtemps.
Années. Ah, non,
quelques
années. Quelques années. Voilà. Et puis après, ils ont même admis que j'étais l'un des fervents supporters d'Ariane et surtout avec Ariane Espace.
Ouais, moi, je me souviens d'un 13 heures qu'on avait fait ensemble. Vous étiez venu commenter un lancement, ou alors vous étiez en direct de Kourou.
En direct de Kourou. Ariane 5.
Pour Ariane 5, il y avait une attente importante. Comment ça s'est passé?
Et puis elle a pété. Elle a explosé. Elle a explosé, c'est juste à la fin du journal de 13h, et j'étais le seul, vous vous rendez compte, Ariane 5, qui était la version la plus puissante, moderne, j'étais le seul journaliste TV en direct. Vous voyez, les gens, mes confrères ne croyaient pas.
Hein. Alors, lors du premier lancement réussi, donc là, on fait un petit rétro-pédalage dans le temps, c'était le 25 décembre 79. Il y a une anecdote très drôle dans votre livre, Comment ça marche chez Paulsen. Comment le personnel du CNES a fêté le premier lancement?
En fait, c'est pas le personnel, c'était le pâtir. Bon, cette fusée avait été retardée. Ouais. Je mets dans le livre que c'est pour une bouteille de Bordeaux que le ministre André Giraud, qui était bordelais, parce que j'avais caché une bouteille de Bordeaux derrière la fusée parce qu'on s'embêtait, nous, les journalistes. Ils s'en attendaient. Ben oui, elle partait pas. Alors, on avait pris les munitions auprès du bistrot, auprès du bar du coin, et donc il y avait une bouteille de Bordeaux qui était derrière les moteurs d'Ariane, et Giraud, le ministre de l'Espace, alors on avait l'interdiction de la diffusion directe. Ah oui, le CNES ne voulait pas.
Qu'on diffuse l'image du lancement.
Alors qu'on a eu la Lune en direct. Non mais attendez, on avait la Lune en direct, on vous interdisait. Et donc, le Giraud se balade, il voit ma fusée, il voit ma maquette, il dit... Ah, puis il voit la bouteille de Bordeaux. Oh, il dit, un journaliste qui boit du Bordeaux, c'est forcément un bon journaliste. Merci, monsieur le ministre. Quel est votre problème? J'ai dit, on ne peut pas faire de direct. Comment c'est ça? Il dit, je vais voir le président, il va voir Giscard d'Estaing. Il revient 5 minutes après, il me dit, OK, chevalet, feu vert. Oui, pour une bouteille de Bordeaux. Bon, alors, je termine.
Donc, toujours se promener qu'une bouteille de Bordeaux. Voilà, Thomas,
oui, bien sûr,
donc,
j'ai ça.
Enfin, elle part la veille de Noël, le 24 décembre, en direct, à TF1, on l'a. Et c'est une telle joie. Parce que si elle partait pas, c'était fini. Il fallait démonter la fusée, la ramener en France. Et donc, il y avait des réserves d'hydrogène très froid et d'oxygène liquide. Et donc, les gars ont purgé, puisqu'elle était partie, et puis on n'était pas prêt d'en remettre une autre. Et donc, ils ont vidangé ça. Et la condensation, comme il y a beaucoup d'humidité à Kourou en Guyane, c'est presque 100% d'humidité, et bien, il s'est mis à avoir de la neige. Et il y a eu une bataille. Et les gens qui étaient dans la salle de contrôle ont fait une bataille de boules de neige.
Une bataille de boules de neige.
En Guyane.
Pour fêter la veille de Noël. C'est génial.
Vous avez noué des relations, Michel Chevalier, presque amicales avec certains astronautes français. Par exemple, Jean-Luc Chrétien. De quand date votre première rencontre, vous en souvenez?
Chrétien, la première rencontre, c'est quand on a su qu'il était sélectionné, que c'était le premier Français qui allait partir dans l'espace. Mmh. Et il allait partir dans l'espace du côté soviétique. Attendez. On ne mettait pas les pieds. Moi, c'est la première fois avec Jean-Luc Chrétien. Enfin, il y a un voyage de presse organisé. C'est 82, le premier vol de Jean-Luc Chrétien. Puis après, il y en a fait un deuxième, 86. Et ça nous a permis de mettre les pieds dans l'espace soviétique. Alors que l'espace soviétique, les Occidentaux n'y allaient pas. Et donc, on a lié des liens d'amitié. Parce que c'est un personnage... Si vous voulez, moi, je te compare à Savary. Très pro, très bien. Cause pas beaucoup, mon Jean-Loup. Mais quand il cause bien, et puis, il déguste bien la bière, il descend bien la bière.
On dirait du Audiard, oui. Michel Chevalier.
Et donc on a lié des liens d'estime et d'amitié.
Et du coup, vous saviez, Michel Chevalier, que Jean-Luc Chrétien avait une passion pour la musique et pour l'orgue. Ça vous a donné une idée, laquelle?
Exactement, c'était un organiste et à Saint-Maximin. Et donc je voulais, pour toujours le problème que vous avez soulevé, comment rendre passionnantes des choses qui ne sont pas en soi tellement passionnantes? Il fallait faire une mise en scène. Donc c'est le but, c'est ce que je relate dans le livre, tous les coups que j'ai montés. Et Jean-Luc Chrétien, j'ai dit, pour que ça soit passionnant, parce qu'on va faire des calipettes là-haut, j'ai dit, je vais faire monter un orgue dans la station Mir. Enfin, un truc de fou. Et bien, on y est arrivé.
Vous étiez à Jeun quand vous avez eu cette idée?
Oui, ça m'arrive.
Il
n'y
a pas une bouteille de Bordeaux dans le coin, vous êtes sûr?
Mais non.
C'est une très bonne idée pour faire l'événement, c'est
bien
super.
Bien sûr, il faut avouer que, c'était du boulot, mais j'ai eu la complicité, l'aide des gens du CNES, des types remarquables, passionnés par ça.
Mais quelqu'un y a joué?
J'ai eu des soviétiques, des gars, des très grands bonhommes. Des très 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 grands bonhommes, des très grands professionnels, au-delà de toute idéologie politique, ils ont accepté qu'on sélectionne un petit clavier Yamaha.
Ouais.
Hein, entre nous, j'avais été voir un consultant français, il me dit, c'est pas possible, je vais voir Yamaha. Qui me dit, bah oui, bah, tout de suite, bah, évidemment.
Et là, ce qu'on a et joué de l'orgue.
Mais l'orgue est parti, Jean-Loup, en direct, dans le journal de 20h, c'était PBDA, c'était pas vous, mon cher U.
Ah non, c'était pas
et
moi.
Bah, oui. Et bien, il nous avait joué au Wayne the Set pour Marcheline.
Oh, quelle histoire.
Et j'avais gagné.
Et vous aviez gagné. Il y a plein d'autres idées comme ça que vous avez eues. On va les découvrir tout à l'heure dans notre seconde heure de curiosité, avec les astronautes français notamment. Et puis alors, il y a une anecdote que vous nous raconterez tout à l'heure. Michel, vous avez failli partir dans l'espace. Si ça donne pas envie aux auditeurs d'RTL de revenir ou de rester avec nous jusqu'à la suite du flash, je sais pas quoi dire.
Alors vous avez fait votre maximum, ah là, oui, Thomas, là. Bravo.
Vous écoutez RTL.
RTL. Épatant d'esprit, Michel Chevalet.
Forme oblongue, classique. Ogive avant, à l'avant, ogive arrière. À l'arrière, la partie centrale de l'appareil se trouvant au centre.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qui est tout nouveau, c'est son principe de séparation multicommandée, bien connu des scientifiques sous le nom de scission sismosismique.
Merci Michel, j'ignorais pour ma part que la guerre puisse faire autant de dégâts.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez été pas mal parodié quand même, Michel. Là, c'était les inconnus, si je ne me trompe pas, c'était les inconnus.
Oui.
On a écouté Laurent Gérard tout à l'heure et vous nous avez raconté, pour ceux qui nous rejoignent, quand même, l'anecdote est géniale, que finalement, c'est lui qui vous a fait prendre conscience,
absolument,
Laurent Gérard, que la formule comment ça marche, c'était votre gimmick, votre leitmotiv.
Bah, c'est le talent des humoristes, ça, d'arriver à sortir un peu la caricature.
Il avait trouvé,
du personnage.
Oui, il avait mis le doigt, c'est quelque chose, et puis maintenant, ça me colle, c'est mon image. Hein.
Et c'est même le titre de votre livre publié aux éditions Paulsen, comment ça marche, mémoire spatiale d'un journaliste. Alors, dans ces mémoires, il y a une date importante à raconter, Michel. On est en août 1992. À l'Élysée, c'est François Mitterrand, évidemment, qui est président de la République, qui est dans le bureau du président avec vous. Quelques journalistes, c'est ça ?
Alors, il y avait des journalistes, c'était Michel Tognini, le troisième à partir dans l'espace, Chrétien, Baudry, Tognini, et il y avait une liaison, une vidéotransmission, et on avait donc, normal, qui est le président de la République, et il y avait les gens du CNES, évidemment, la direction, mais il y avait quelques journalistes, notamment les télés,
ouais.
La une, la deux, il y avait deux chaînes à l'époque. Et puis le président commence la vidéotransmission avec Tonini, bonjour, etc. Vous avez vous qui êtes bien, voilà. Puis il était fatigué, le président. Il était très fatigué. Il avait une tranche de 10 minutes d'antenne. C'est normal, c'est le président. Nous, les journalistes, on avait 2 minutes, il en avait 10. Le problème, c'est que d'un seul coup, il dit bon, bah, écoutez, bravo, continuez, bon voyage, monsieur Tonini. Et puis il se lève. Puis vient vers moi, qui était là en spectateur. Moi, j'allais prendre l'antenne, mais plus tard, on dirait que c'était Narcy qui présentait, hein, ouais, un samedi. Et il vient vers moi, il me dit, bon, bah, écoutez, prenez ma place, monsieur Chevalet.
Derrière le bureau du président?
Voilà. Mais oui,
assis
dit,
sur le son siège.
Voilà, exactement. J'ai dit, monsieur le président, non, vous le connaissez. Bah, j'ai dit, je le connais bien, Michel Tonini. Eh bien, allez-y, c'est votre ami. Et je m'assois au bureau du président. Et puis, je continue avec Michel. Bon, Michel, je fais mon numéro TF1, quoi, en direct. Et puis, Je passe l'antenne à la 2. J'aurais pas laissé grand chose. J'ai été gentil.
Vous avez mangé un peu le créneau.
Oui, voilà. Je voyais le gars qui
mais que c'est mesquin.
Qui faisait des signes. Bon. Et le président était resté avec Hubert Curien, le ministre de la Recherche, et Frédéric Dallest, qui était le patron du CNES à l'époque. Et puis, le président s'adresse à son ministre, ils sont très révérencieux. Monsieur le ministre, dit-il à Hubert Curien, est-ce que notre ami pourrait aller dans l'espace? Curien, le ministre.
En parlant de vous?
Oui, en parlant de nous. Il dit, oui, je pense qu'il va avoir les qualités physiques, intellectuelles. Que faudrait-il qu'il fasse, monsieur le ministre? Alors, Curien dit, écoutez, il faut qu'il aille à la Cité des Étoiles, il faut qu'il passe les épreuves de sélection, mais je pense qu'il va pouvoir les aller. Et puis, Cité des Étoiles, et puis, malheureusement, il va falloir apprendre le russe en 3 mois, c'est très dur, mais ça vaut le coup.
Alors, attendez, François Mitterrand décide de l'envoyer dans l'espace, en fait.
Voilà, exactement, il avait l'idée. Voilà. Et François Mitterrand dit, monsieur le ministre, faites le nécessaire. Curien me regarde et dit, Michel, vous avez compris? Eh bien, j'ai dit, ok, tout de suite, je pars. Je rentre à Cognac-Jay, fou de joie. Mais je n'ai rien dit à l'époque, personne ne l'a su.
Ouais.
Et là, c'est quasiment, c'est dans le livre, mais c'est vous qui avez la première information. Et donc, je rentre à Cognac-Jay. Oh putain, je vais aller voir, je fonce voir Lelay. Bon, il me reçoit à 15h. Alors, Lelay me dit, bon, d'accord, moi, pendant un an, sans congé, il n'y a aucun problème pour moi. Ah, une condition, je voudrais voir TF1 en orbite avec un logo TF1. Voilà, c'est tout.
Oui.
Malheureusement.
Gardez pas le Nord.
Oula. Malheureusement, 3 mois après, Mitterrand est mort, donc ça s'est terminé. Voilà.
Quelle histoire.
Alors, et j'ai mis, attendez, et j'ai mis les dernières lignes dans le livre, dans le paragraphe, et j'ai mis, et j'ai fait économiser 80 millions de dollars aux contribuables.
Mais parce que ça coûtait 80 millions de dollars d'envoyer un Français dans l'espace.
Voilà,
mais vous avez eu un lot de consommation, de consolation. Vous avez marché sur Mars, enfin,
simulation.
Le sol martien reconstitué. C'est quoi cette histoire?
Ah ben, c'était un idée avec la Fondation Planète Mars, ce sont des copains, et c'était les opérations qu'ils faisaient. C'était des simulations de séjour sur Mars, mais dans des décors qui représentent Mars. D'habitude, ça se passait dans le Grand Nord. Mais là, c'était dans l'Utah. Et quand vous allez dans l'Utah, vous avez été dans vos vacances et les Rochers Rouges, c'est Mars. Et donc là, la NASA a donné à la Fondation Planète Mars un module qui ne servait plus à l'entraînement, un gros cylindre sur des pattes, et les gars, on vit là-dedans, et on a droit de sortir qu'en scaphandre, et on se balade avec des scaphandres sur le sol de l'Utah, mais en faisant ce que feraient des géologues sur la planète Mars.
Et donc
j'ai vécu 8 jours. Moi, je suis resté, eux, c'est 15 jours, c'est trop long. Moi, je suis resté 8 jours et en même temps, j'en ai profité pour faire des reportages.
Et avec le même système de transmission, c'est-à-dire que si on doit discuter,
absolument,
si j'ose dire,
il y avait 20 minutes.
Avec des astronautes, c'est ça, ça prend 20 minutes.
Ah oui, c'était 20 minutes. Il y avait 20 minutes. Vous appelez Allô la Terre, vous attendez 20 minutes. Oui, je vous écoute. 20 minutes.
Voilà. Oui, il faut bien choisir ses mots. Hein, faut pas parler.
On a découvert qu'avec les scaphandres, quand on marche, et les problèmes de ventilation, de buée à l'intérieur, la difficulté des gants. Les gants, c'est très difficile. Les gants sont très raides. Ils font très vite mal aux doigts. Vous voyez, mais c'est pas inutile, hein, ce genre de simulation.
Alors, une autre anecdote, il y en a plein dans votre livre, Michel, mais il y en a une autre qu'on a choisie et qu'on va raconter maintenant. On est avec l'astronaute français Patrick Baudry. Vous l'avez cité. Donc, c'est le deuxième astronaute français à être parti dans l'espace. Lui, il est parti avec les Américains, si je ne me trompe. On est au milieu des années 80. Il s'apprête à s'envoler. Et alors, on le voit apparaître avec un béret sur la tête. D'où il vient, ce béret?
Oh là là, le scandale. Oh, le scandale que ça a fait, ça.
Bon,
un incident diplomatique. Bon. Mais non, mais c'est ce que je raconte. Si vous voulez, ce livre, moi, quand Isabelle Parent, la directrice de collection, m'a appelé et voulait un livre sur l'espace. Mais je lui dis, Isabelle, il y en a plein, ça intéresse plus les gens. Les astronautes ont tout raconté. Mais non, mais comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez fait pour rendre ça passionnant aux gens? Ben, j'ai dit, j'ai fallu que je sois pas très sérieux, que je monte des coups. Et donc, Baudry, c'était très compliqué. Son vol a été repoussé, annulé. Ça marchait mal. Il était mal aimé aussi à la NASA. Et donc, ça n'intéressait plus le public. Et alors, donc, de fait, je me disais, qu'est-ce qu'on va bien faire? Et donc, comme j'étais assez copain avec Patrick, c'était un bon bout en train, j'ai dit, ben voilà, au moment où l'équipage sort pour monter dans le véhicule qui va les amener sur le pas de tir, là, il y a la presse, il y a les caméras, hein. Donc, avant, la veille, toujours par relation avec Jacques Tizio, j'ai pu le rencontrer, il était en quarantaine, je l'ai rencontré, et je lui ai fait passer un béret basque. Et donc, quand il est sorti avec l'équipage, tout le monde avait le casque le casque d'astronaute, sous le bras, lui, il avait le béret sur la tête. Immédiatement, crépitement des flashs, c'était à la une de tous les journaux américains, des journaux français, j'avais réussi mon coup, et on a parlé de Patrick Baudry.
Donc ça n'a pas fait un scandale.
Mais si, parce que les gens du CNES n'étaient pas très contents.
Ça n'est pas sérieux.
C'est passé. Après.
Vous lui aviez offert aussi des charentaises,
ah oui,
c'est ça?
Ah bah oui,
tous les clichés du français, quoi.
Absolument, voilà. Bon, je pouvais pas mettre la baguette, évidemment, mais il avait les charentaises.
Merci beaucoup, Michel Chevalet, votre livre « Comment ça marche ? Mémoire spatiale d'un journaliste » et donc publié aux éditions Paulsen. C'était un bonheur de vous avoir ici au Mondial de l'Auto et dans le studio de la Curiosité. Merci Michel.
Merci Michel, ravi de vous avoir rencontré.
Vous écoutez RTL.